Hey, bonjour tout le monde, on est bien content de vous voir ici ce matin. Vous êtes en forme tout le monde? Ouais, on l'espère en tout cas, on espère que vous avez passé une belle semaine. Et puis salutations aussi à ceux qui nous écoutent en ligne. Une nouvelle église s'est ajoutée, vous savez, il y a quelques églises aussi qui nous écoutent. Il y a des individus qui nous écoutent un peu partout, mais dans la francophonie, mais aussi il y a des églises. Et puis une nouvelle église cette semaine nous a écrit pour nous demander la permission de diffuser nos services et tout ça. C'est à Matane, donc salutations à eux. Bien content. Et puis, comme annoncé, depuis quelques semaines, à l'occasion de Pâques, on fait une mini-série de messages sur certains repas que Jésus a eus avec des gens à son époque et aussi un repas qu'il va avoir avec nous plus tard. On appelle cette série « Des repas plus que parfaits ». Ça vous dit quelque chose, hein? Ah oui, vous pensez au souper presque parfait. Mais vous savez, avec Jésus, les soupers sont toujours parfaits. Parce que tu es avec le Seigneur Jésus. Parce que chaque repas passé avec Jésus est vraiment une occasion de grandir, hein, dans la foi. Et vous savez, partager un repas, c'est très important. Et c'est important à l'époque, particulièrement, ça l'est encore aujourd'hui. Mais c'est une belle occasion de connecter avec les gens. Et puis, à cette époque-là, c'était vrai aussi. C'était une bonne façon de faire connaissance, mais c'était également une belle façon de s'édifier ensemble, mutuellement, et de grandir. Et lorsque Jésus partageait un repas avec les gens, c'était toujours un rendez-vous divin. Et c'était le cas lorsque Jésus a passé un repas, est allé souper avec, manger chez un individu du nom de Zachée. Sa rencontre avec Jésus l'a vraiment complètement transformé. Et j'exagère pas quand je dis ça. On a même l'occasion de voir déjà un certain changement après quelques heures qu'il a passé avec Jésus. Puis nous, on a vraiment un privilège. C'est comme si on était assis dans le salon puis on voyait Zachée en train de changer. C'est vraiment beau, là. On a un aperçu, là. C'est comme si on était chez lui. Et c'est ce que fait Jésus dans la vie des gens. Si seulement les gens savaient et découvraient la vie que Jésus nous offre. Est-ce que j'entends des amens ici? Hein? Absolument. Et le passage qu'on va voir ce matin est immensément important, car on voit quelqu'un qui, à première vue, avait vraiment la vie abondante. Il avait tout ce qu'il voulait, là, vraiment. Là. Il avait vraiment tout ce qu'une personne pouvait désirer en termes de confort et de richesse. Il était riche, très riche. Il pouvait d'ailleurs s'offrir tout ce que tu pouvais t'acheter à ce moment-là. Pourtant, il manquait la chose la plus importante. Plus importante au monde, une relation avec Jésus. C'est Blaise Pascal, un philosophe et mathématicien français du 12e siècle, du 17e siècle, qui a dit ceci, qui a dit que les gens ont une trace de bonheur, mais ce n'est qu'une trace du bonheur originel qu'avaient les premiers êtres humains. Nous avons perdu le vrai et le plein bonheur, dit-il. Personne n'est aussi heureux qu'il a été créé pour l'être. Et Pascal décrit cela comme l'abîme infini, un trou géant que seul Dieu peut combler. Alors, quel espoir y a-t-il pour les personnes qui semblent tout avoir, mais qui manquent toujours ce qui est le plus important dans la vie? La seule chose, dans le fond, qui satisfait. Et ce matin, nous allons nous pencher justement sur l'histoire d'un homme qui avait tout dans le monde, tout ce que le monde pouvait offrir, mais qui manquait toujours quelque chose. Alors, je vous invite à vous joindre à moi dans l'Évangile de Luc, et on va aller se retrouver au 19e chapitre, Luc 19, et on va lire les 10 premiers versets. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le verset clé dans tout ce passage, c'est vraiment le verset 10. C'est le message de tout le passage ici. C'est une grosse révélation. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le verset 10, c'est la vérité la plus précieuse, la plus glorieuse et la plus importante jamais révélée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu fait de très grandes, le verset 10 particulièrement, fait de très grandes déclarations qu'on a besoin de croire pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire le salut que Dieu offre, cette vie spirituelle que Jésus a tant parlé et qui manquait à Zachée. La première déclaration est que nous sommes tous pécheurs et perdus devant Dieu. Et ça, c'est un gros mot, ça. Ce verset parle de notre perdition. C'est pas populaire aujourd'hui, mais la parole de Dieu l'affirme. Le verset 10 l'affirme. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le mot perdu ici fait état de notre condition devant Dieu, notre perdition spirituelle. Mais ça ne veut pas dire qu'on est perdu dans la vie. Notre vie peut très bien aller, on peut avoir du succès dans la vie, tout va bien, on peut être en santé, avoir de l'argent, du succès, ou tout va bien. On ne parle pas de ça ici. On ne parle pas de nos conditions de vie ici. Regardez Zachée. Il avait tout ce qu'il voulait. Premièrement, regardez où est-ce qu'il restait. Il restait à Cancun, sur le bord de la mer. Ah oui, c'est écrit au verset 1. Vous n'avez pas vu ça au verset 1, là? Ah oui, regardez, c'est écrit, là. Bon, OK, c'est pas tout à fait Cancun, mais verset 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Hey, Jéricho, une place magnifique. On l'appelait la ville des palmiers. Un historien romain disait que c'était un petit paradis. C'est le genre d'endroit où tu voulais aller en hiver. Tu sais comment quand t'es en hiver, tu regardes dehors puis il y a 6 pieds de neige, là. Qu'est-ce que tu dis? La première pensée qui vient en tête, c'est quoi? Hey, serais-tu bien dans le sud? Bien, les gens de cette époque, le sud, c'était Jericho on the beach. Et la ville était bondée d'arbres, des belles plantations. La ville sentait bon, d'ailleurs. C'était plein de parfums. Le climat était magnifique. Même en hiver, il faisait beau. C'était le lieu aussi de l'opportunité. C'était la cité-jardin du monde antique. Il y avait un théâtre, un amphithéâtre que Hérode avait fait construire. Il y avait aussi un nouveau palais, des jardins magnifiques. Le grand historien Alfred Eidesheim a dit « Jéricho était caractérisé par des bosquets de palmiers s'élevant dans une beauté majestueuse, des jardins de roses étendus et des plantations de baumes odorants. Le vent transportait le parfum des fleurs presque jusqu'à la mer. Et certains croient que c'était pour cette raison qu'on avait donné le nom à la ville de Jéricho, qui veut dire « la parfumée ». Quel goût d'être là, hein? Eidesheim raconte, c'était l'Éden de la Palestine, le pays des fées de l'Ancien Monde. C'était magnifique. Et là, en plus, non seulement c'était beau, mais c'était une place prospère. Ça faisait du cash là-bas. Là. Il y avait des marchands de tous les pays qui venaient là, travailler, transiger, tout ça. C'était l'un des centres commerciaux les plus denses. Il y avait des routes allant du nord, sud, est, ouest. C'est un endroit qui était animé. Le verset 2 dit, « Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts. » Zachée était un homme riche. Il demeurait donc dans cette ville qui était paradisiaque, dans une très belle maison. Probablement que s'il vivait aujourd'hui, il serait dans un penthouse très élevé là, ou dans un gros domaine. Le verset 2 explique comment il s'est enrichi. On comprend pourquoi. Il était un homme d'affaires, le collecteur d'impôts. Et plus que ça, il était le chef des collecteurs d'impôts. Ce qui le rendait immensément riche. Il faut comprendre que Jéricho était l'un des trois centres commerciaux régionaux d'imposition en terre d'Israël. Tu avais le nord qui était Capernaum, tu avais le milieu qui était Césarée, puis tu avais le sud, tout le sud du pays qui était Jéricho. Alors, cette ville comptait plusieurs collecteur d'impôts, la perception d'impôts fonctionnait avec des franchises à ce moment-là. Pour avoir une franchise fiscale, il fallait que tu l'achètes à Rome. Et Rome fixait un certain montant que le collecteur d'impôts devait payer. Et tout ce qu'il pouvait collecter d'autre, ça lui appartenait. C'était à lui. Tu pouvais le garder. Alors, vous pouvez imaginer que c'était vraiment une formule parfaite pour de la corruption puis de l'abus, là. Il y avait plusieurs façons de taxer à cette époque-là. Les gens n'avaient, c'était rendu que les gens n'avaient aucune espèce d'idée ce qu'ils étaient censés payer en taxes. C'était tellement rendu complexe. Il y avait des impôts de base, un impôt individuel, un impôt foncier, un dixième de tout le céréal, quelque chose d'équivalent au céréal, un cinquième du vin, de l'huile. Il y avait donc des impôts fixes, des impôts sur le revenu. Et au-delà de ça, c'était possible de taxer aussi tout ce qui pouvait l'être. On pouvait taxer le commerce et tout le monde. On pouvait taxer non seulement le commerce, mais tout le monde. Écoutez, on pouvait taxer même chaque roue de ta charrette, chaque animal qui tire la charrette, chaque essieu de ta charrette, chaque produit acheté et vendu, toutes les manières inimaginables. Et Jéricho, c'était une ville frontalière avec un poste de douane, alors les gens devaient s'arrêter de payer les impôts. C'était l'une des villes les plus riches de la Palestine. Les recettes fiscales de Jéricho étaient phénoménales. Alors, vous pouvez comprendre que les collecteurs d'impôts s'en mettaient plein les poches, car ce qu'ils payaient à Rome n'était qu'une partie de ce qu'ils collectaient réellement. C'était vraiment une business, là. Et comme chef des collecteurs d'impôts, là, Zachée, là, le boss, le gars en haut, là, la pyramide, là. C'est Zachée qui passait les contrats pour les ventes et les clients et qui engageait les collecteurs d'impôts pour collecter l'argent. Ces gars-là travaillaient tout pour lui. C'était pas juste un simple collecteur d'impôts, c'était le superviseur, le gars en haut de l'échelle. Il était le chef du cartel fiscal. Donc, quand on parle d'un pêcheur qui est perdu, on parle pas nécessairement de quelqu'un qui a des problèmes dans la vie, là, avec des problèmes de conditions de vie, là. Le gars, il vivait là, comme la grosse affaire, là. À première vue, là, c'était le gars là, qui avait réussi dans sa vie. Aujourd'hui, si Zachée vivrait, là, s'il vivait, là, il serait sur TikTok en train de donner un cours comment devenir millionnaire en 10 jours. Comment acheter des actions, comment à la bourse, comment acheter des bitcoins. Ce serait lui, ça, Zachée. Aux yeux des gens, tout peut bien aller. Mais c'est pas la même chose devant Dieu. Zachée était immensément riche. Au-dessus de ses affaires, il demeurait dans une belle propriété, dans une ville paradisiaque. Il avait tout ce que le monde pouvait désirer. Mais si Zachée était riche devant les gens, il était pauvre devant Dieu. En fait, il était spirituellement en faillite. Séparé de Dieu, loin de Dieu. Et la parole de Dieu dit que c'est notre condition, ça, devant Dieu. Maintenant, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer très vite. Pas de problème avec les impôts, là. Jésus ne critiquait jamais les impôts. D'ailleurs, c'est une noble vocation que de travailler comme collecteur d'impôts. Moi, j'avais un collecteur d'impôts, moi, qui venait de notre église à Laval-Est. Quand longtemps que j'étais là, j'étais pasteur là-bas, puis c'était notre trésorier. Hey, laisse-moi dire que les chiffres, hein, c'était comme wow. Chic type, super, le problème n'est pas là. Même Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. À l'époque de l'Ancien Testament, Israël, d'ailleurs, fonctionnait grâce à tout un système d'impôts qui avait été bien établi, où les Juifs payaient environ 23 1/3 d'impôts, pourcentage d'impôts, pour financer le gouvernement. Puis le Seigneur a institué l'impôt parce qu'il a institué le gouvernement. Alors, les pouvoirs en place sont ordonnés par Dieu. Le problème, par contre, c'est avec les abus, la corruption, la malhonnêteté, le crime et le fait de soutirer de l'argent des gens par de la force physique comme qui se faisait à Jéricho. On pouvait te battre si tu ne payais pas, là. Tu avais des soldats romains et tout ça avec toi, là, c'est comme le gars, il avait comme le pouvoir incroyable. Tu ne pouvais rien faire, là. C'était violent, même. On comprend donc pourquoi les gens haïssaient vraiment les collecteurs d'impôts. On les traitait comme de la souillure. Ils n'avaient même pas le droit d'aller à la synagogue. On les rejetait. Puis tu ne pouvais même pas te tenir avec eux autres. C'était des gens reconnus comme des pécheurs. Eux autres, c'est des gens souillés, les impurs. Tu n'as pas d'affaire à te tenir avec ces gars-là. Là. Puis ils ne vont surtout pas manger chez eux. Là. Alors, c'était des gens qui étaient vraiment rejetés, méprisés par la communauté juive. Mais Jésus arrive en ville. Il arrive. Puis là, il y a du monde qui le suivent. Et mon ami, il y a du monde qui le suivent parce que premièrement, c'est Pâques bientôt. Alors les gens, tu as la foule qui descend parce qu'il fallait, c'était une des fêtes juives, trois fêtes juives où il fallait que tu te déplaces indépendamment où tu restais en Israël. Il fallait que tu te déplaces, tu te rendes jusqu'à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques. Alors les gens étaient là, il y avait la foule. Et non seulement ça, à ce point-ci, Jésus est pas mal connu, là. Il a fait des miracles, des guérisons dans plusieurs villes. Alors la foule le suit. Et puis non seulement ça, c'est que la rumeur de la résurrection de Lazare s'est fort probablement rendue à Jéricho. Parce que c'était vraiment pas loin. Jésus a ressuscité un mort, donc tout le monde voulait le voir. C'était, mon ami, on le suivait, là. Comme la foule, Zachée voulait aussi voir Jésus passer à travers la ville, alors qu'il se rend à Jérusalem. Alors, on peut lire au verset 3, « Zachée cherchait à voir qui était Jésus. » Mais il n'y arrivait pas à cause de la foule. Et je peux vous laisser une affaire. Je peux vous dire une chose, c'est que la foule ne le laissait certainement pas passer, là. La foule ne l'aimait pas, les collecteurs d'impôts. Il n'aurait pas dit, bon, tiens, garde, vas-y, on va te laisser, toi, garde. Ah, absolument pas, là. Et non seulement ça, c'est que le passage nous dit que Zachée n'était pas capable de voir Jésus parce qu'il était de petite taille. Le gars n'était pas grand. Tu as une foule devant toi, il n'était pas grand, là. Plein de gens devant lui. Et le fait d'être petit, ça veut dire quoi, ça, être de petite taille en Méditerranée? Bien, à cette époque-là, ça voulait dire que tu n'avais pas 5 pieds. Tu étais plus petit que 5 pieds. Alors, 1,52 m, à peu près, plus bas qu'un mètre 52. Alors, il court en avant, monte sur un arbre, pas très chic à l'époque, parce que les gars, il y avait une tunique assez longue. Alors, tu peux l'imaginer en train de courir avec sa tunique, puis il arrive, mais il veut absolument voir Jésus, le gars, là. Fait qu'il accroche un arbre, monte dessus. Et mon ami, c'était pas trop chic, mais ça fait rien. Il voulait voir Jésus. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il lève les yeux, imagine. T'as une foule, c'est plein de monde. Et là, Jésus lève les yeux. Vois-tu pas un gars dans un arbre? Hey, c'est beau pareil. Et Jésus l'appelle par son nom. Il dit, Zachée. Il n'a pas dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, Zachée. Descends. On vient manger chez vous. Non, mais je ne sais pas, mais si toi, je te disais, on vient manger chez vous. Hein? T'as moi dit ça? Les gens, ton voisin t'appelle et dit, on vient manger chez vous. Là. Papa m'a soumis. Jésus s'invite. Mais Dieu merci. Hein? Dieu s'invite. Vous savez que Jésus a passé à travers Jéricho pour aller chercher ce pécheur, Zachée. Pas un hasard, là. Pas par hasard. C'est ce que Jésus fait. Il cherche le pécheur. Il est venu pour chercher ce qui était perdu. Et c'est une autre forte déclaration que nous avons ici et qui résume bien vraiment la mission de Jésus que nous voyons clairement au verset 10 ici. Jésus est venu chercher et sauver les pécheurs perdus. C'est vraiment intéressant parce que l'auteur de l'Évangile, c'est l'Évangile de Luc ici, nous rapporte que Jésus se fait aussitôt critiquer d'être allé chez un percepteur d'impôts qui, aux yeux du monde, était un pécheur, un escroc, un gars tout croche. C'est intéressant parce que dans l'Évangile de Luc, c'est le 6e collecteur d'impôts que l'on voit dans l'Évangile de Luc. Et c'est la 6e fois que Jésus rencontre un collecteur d'impôts. En fait, Jésus a passé tellement de temps avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, etc., qu'il a même eu un surnom. Il s'est fait dire, hein, l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Jésus est l'ami des pécheurs. J'attendais un cri, quelque chose. C'est comme Amen, quelque chose. Mais non, c'est correct. Jésus est l'ami des pécheurs. Oh, yes! Et Dieu cherche et sauve ceux qui sont perdus. Et ça, ça correspond à la nature de Dieu. C'est Dieu, ça. Et ça a commencé au Jardin d'Éden. Vous vous en souvenez, l'histoire du Jardin d'Éden, là? Adam avait péché, puis il se cachait, là, quelque part, dans un buisson. Il ne veut pas se faire voir par Dieu. Puis qu'est-ce que... Dieu s'en va chercher Adam, hein, puis Ève. Où es-tu, Adam? Il va le chercher. Ça, c'est propre à Dieu. Ézéchiel 34, 16 dit, « J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. Dieu est à la recherche de ceux qui sont perdus. Et c'est essentiel pour chacun d'entre nous de le voir et de le saisir. C'est le grand plan de Dieu. Parce que Romains 3, 11 nous dit que personne cherche Dieu. Pas dans notre nature. On a un cœur fermé. C'est pour ça qu'on a besoin de vraiment être reconnaissant envers Dieu, de nous chercher. La Bible affirme que nous sommes spirituellement aveugles en raison de notre péché. C'est pour ça qu'on ne peut pas chercher Dieu. Il n'y aurait aucune réconciliation, pas de salut, pas de pardon, pas d'espoir, de paradis si Dieu ne nous cherchait pas. C'est Dieu qui nous cherche. Dieu cherche, Dieu sauve ceux qui, en dehors de lui, se cacheraient de lui, tout comme Adam et Ève, fuyant sa présence sans être capables de se tourner vers lui pour le poursuivre. Et c'est ce qu'on voit ici, Jésus est le chercheur. Jésus est le chercheur. L'histoire de Zachée est donc une belle illustration de tous ceux qui ont été touchés avec son salut. Voici un homme qui se trouve dans cette foule assis sur un arbre. Et sans le réaliser, il a un rendez-vous divin avec Jésus, le chercheur et le sauveur qui le voit, qui le nomme et qui lui dit « Je viens dans ta maison ». Zachée ne savait pas, mais c'était son jour de salut. Il dit au verset 10 « Le Fils de l'homme est venu ». Vous voyez l'expression ici? Il est venu. Ça fait référence à son incarnation, ça. Il n'est pas venu juste à Jéricho, non. Il est venu dans le monde. À sa naissance, il est venu. Il s'est incarné dans le but de chercher, sauver. Et le mot « chercher » signifie vraiment « poursuivre ». Dieu est à la poursuite du pécheur. Moi, je me rappelle, lorsque la première personne qui m'a parlé d'Évangile, c'était une de mes premières copines. C'était pas la première, c'était une des premières copines. Et puis, elle m'a présenté l'Évangile. Je l'ai laissé, abandonné. J'ai cassé, je ne sais pas si on dit encore ça aujourd'hui, j'ai cassé avec elle, j'ai rompu notre fréquentation. Pourquoi? Parce qu'elle était chrétienne. J'avais un cœur dur. Et Dieu me poursuivait. Il est revenu quelques temps après. J'ai rencontré quelqu'un à Montréal, on s'en est dans une fête, là, Saint-Jean-Baptiste, en bas de la ville. Là, il y a un gars, un étranger qui m'accoste là, sur le trottoir, qui commence à me présenter l'Évangile. Là, j'étais avec Lise. On se fréquentait à ce moment-là, une présente l'Évangile. Ça n'a pas été plus loin. Encore le cœur dur. Quelques temps après, un des clients à 200 kilomètres de chez nous, ici, à Gatineau, au bout du monde. Gatineau! J'étais un gars de Montréal. Gatineau, c'est loin! Bon, aujourd'hui, c'est chez nous, mais c'est proche. Et là, c'est un de mes clients. Gatineau, 200 quelques kilomètres de chez nous. Qui me présente l'Évangile. Aïe, 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 Seigneur. Trois fois, deux fois, je lui ai dit non, je veux rien savoir. Trois fois, Dieu me poursuivait. C'est ça qu'il a fait avec toi, hein? Il te poursuit. Si tu es un enfant de Dieu, il t'a poursuivi. Tu sais pas tout ce que Dieu a fait, orchestré, pour qu'un jour tu puisses dire oui. C'est fou. Sauver signifie essentiellement sauver du mal, délivrer du danger. Et l'ironie de la chose, c'est que Dieu, le Père, envoie Dieu, le Fils, pour chercher et sauver ceux qui sont voués à sa propre colère, à son propre jugement. En résumé, Dieu cherche à sauver les gens de lui-même, de sa propre colère, son jugement qui est saint parce que nous avons péché. Le Fils de l'homme s'est donc incarné, il est venu dans ce monde dans le but de poursuivre et de sauver le pécheur. Il n'est pas venu dans le monde juste pour être un bon professeur, un bon leader moral, promouvoir une religion. Il y en avait déjà des centaines à l'époque, là. Pas venu dans le monde pour nous montrer à quoi ressemble une belle vie, une bonne vie. Non, il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs perdus. Et c'est le message chrétien que la parole de Dieu proclame. Vous voulez voir comment Dieu voit notre condition, la condition de notre cœur? Écoutez bien ceci dans Romains 3, 10, qui dit ceci. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous sont détournés. Il n'y a personne qui fasse le bien. Il n'y en a pas même un seul. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça, c'est notre cœur, ça. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour sauver les perdus de sa propre colère et pour les préserver sains et saufs, pour les emmener dans la joie au paradis et être avec eux pour l'éternité. Et Dieu cherche à sauver les pécheurs pour sa propre joie. Dieu trouve une grande satisfaction à rétablir les pécheurs. Luc 15, 7, ceci, que le ciel se remplit de joie lorsque une seule personne se repent et revient à Jésus-Christ. Une seule personne. Il y a la joie au ciel. C'est le party au ciel. C'est la fête. Ésaïe 62, 5, tellement une belle image. Ça dit, tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. C'est beau, ça? Quelle image il y a. Moi, s'il y a une émotion qu'on voit lors des mariages, c'est quoi? C'est la joie. C'est la fête. Ça danse, c'est la joie. On est content. Pourquoi? Parce qu'il y a ce couple-là en amour et qui se joignent ensemble. Eh bien, Dieu trouve cette joie-là, cette excitation dans la restauration d'un pécheur. L'Ancien Testament dit même que Dieu crie de joie. Il est exubérant. Dieu cherche le pécheur. Et si tu n'es pas encore venu au Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas dit oui au message de l'Évangile, oui à Jésus, je te le dis, Dieu te cherche. Là. Dieu te cherche. Car c'est Jean qui a dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est exactement ce qui se passe avec Zachée. De nulle part, Jésus le cherche. Luc nous raconte l'histoire de Zachée, mais c'est en réalité l'histoire de Dieu qui cherche le pécheur pour le sauver. Et c'est ce que fait Jésus. Jésus regarde Zachée, il l'appelle par son nom. Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui, je vais être chez toi. Imagine-toi, là, tu as la foule. C'est plein de monde, des centaines, c'est peut-être même des milliers, plein. Les rues sont pleines. Et là, tu as Jésus au milieu de la foule qui marche, qui essaie tranquillement de frayer son chemin. Tout d'un coup, il s'arrête puis il te donne une invitation personnelle. C'est ça. Ça représente bien Jésus, son amour pour nous. Hein? Traitement VIP. Verset 16, Zachée s'empressa de descendre. Je comprends. Et de l'accueillir avec joie. Il n'aurait jamais pu prévoir une telle chose. Oui, Zachée voulait voir Jésus, mais bien plus encore, Jésus voulait voir Zachée. Au verset 6, il se précipite, il descend, puis il le reçoit avec joie. Maintenant, aucun Juif ne serait allé chez Zachée. Dans ma mentalité de l'époque, tu n'allais pas là. Tu n'aurais pas participé à un repas, parce que ça voulait dire, à cette époque-là, dans la mentalité de l'époque, c'est que tu participais au péché de la personne. Tu serais coupable des mêmes crimes et de la corruption de la personne en allant manger, fraterniser avec la personne. Il faut comprendre que dans l'Antiquité, aller chez quelqu'un signifiait que l'on partageait ses péchés. C'est comme ça qu'on voyait ça. Pourtant, rien de tout ça n'empêche Jésus de tendre la main à Zachée. Puis c'était pas une mince affaire que d'entrer dans la maison de quelqu'un en Palestine au 1er siècle. C'était vraiment un acte de fraternité, un acte de relation. Mais Jésus va chez lui parce qu'il cherche à sauver cet homme perdu. Jésus a une mission divine. Il sait exactement qui est Zachée, bien qu'il ne l'ait jamais rencontré. Il connaît son nom, bien qu'il ne l'ait jamais entendu. Sans qu'il ne le réalise, Zachée a un rendez-vous avec Dieu lui-même en personne qui vient dans sa maison pour le chercher, pour le sauver. On a une autre évidence ici, que ce n'est pas les œuvres, pas grâce aux œuvres qu'on peut atteindre le salut, parce que, crée-moi, Zachée, il n'y en avait pas beaucoup. Ce n'était pas le gars le plus. Alors, Jésus se rend à la maison de Zachée. Et selon la coutume palestinienne, Jésus et ses disciples auraient passé la nuit chez lui. Alors, il passe des heures. Alors, au cours de ce séjour-là, probablement après de nombreuses discussions où Jésus, comme il faisait régulièrement, lui a présenté l'Évangile et tout ça, et probablement des temps de prière, finalement, avec ses heures et ses heures de discussion, finalement, Zachée se convertit au Seigneur Jésus. Et nous voyons au verset 8, un changement tout de suite. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple, 400%. Et le gars, il a changé, là. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Zachée. Vous avez un voleur professionnel qui devient un donateur instantané. Un homme qui a passé toute sa vie à prendre veut maintenant donner. Il s'est passé quelque chose de dramatique ici. Maintenant, on n'a pas la discussion de Jésus avec Zachée pendant toutes ces heures-là, mais on sait de quoi ils ont parlé. Jésus faisait toujours la même chose essentiellement. Il partageait toujours le message de l'Évangile et son besoin de placer sa foi en Jésus, de se repentir de ses péchés. On sait de quoi ils ont parlé. Mais on sait que Jésus a parlé de repentance et la nécessité de mettre sa foi en lui pour avoir la vie éternelle. On le sait parce que c'est ce que Jésus faisait à chaque fois. Zachée avait besoin de se réconcilier avec Dieu. Il avait besoin du pardon de Dieu. Alors, il s'est converti au Seigneur. On sait à cause du verset 9 qui dit ceci. Alors, Jésus dit à son propos, « Le salut est entré dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Jésus sait exactement quand le salut vient. Nous, on ne sait pas tout le temps. Là. Tu demandes à quelqu'un, à des gens, quand est-ce que tu t'es vraiment converti ou que tu es venu au Seigneur ou que le Seigneur a touché ton cœur, etc. C'est pas toujours clair. Des fois, ça l'est, des fois, ça ne l'est pas. Mais Jésus le sait, lui. Et avez-vous remarqué que le salut est instantané? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est beau, ça, c'est instantané. Il y a une certitude, il y a une assurance, là, il y a une conviction. Jésus n'a pas dit, bien, écoute, change, fais le bien, puis on espère qu'un jour, peut-être, tu vas avoir de salut. Non. Il dit, salut, c'est tout de suite, là, c'est là, là. Instantané. Le salut vient d'entrer, là, dans la maison, là. Et Zachée n'a pas eu le temps de faire des œuvres, puis tout ça, pour faire un paquet d'affaires, là. Il est dans la maison, là. Verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et on a l'évidence avec Zachée. C'est l'entrée dans sa maison. Et on voit tout de suite les fruits de la repentance dans sa vie. Zachée dit au verset 8, il se tient devant le Seigneur. Là. Il se lève, après avoir passé des heures et tout ça, à écouter le message de Jésus et les disciples et tout ça. Là. Il se lève, puis regarde Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle mon Seigneur. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai causé un tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée prend officiellement position. Il se lève, donc prend position et dit à Jésus, « Voici Seigneur. » Il confesse Jésus comme Seigneur. Il y a des gens qui disent des fois, ils disent, « Ah, j'ai accepté Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. » Je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est qu'il y a des parties dans leur vie, ils n'ont pas encore cédé au Seigneur. Puis des fois, tu sais, c'est progressif, c'est une sanctification. Je comprends ça. Mais un ne va pas sans l'autre. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Romains 19 dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Maintenant, la première chose que Zachée dit lorsqu'il prend position, c'est que tu es mon Seigneur. Ça veut dire quoi, ça? Tu es mon Seigneur. Je me soumets à toi. Ensuite, Zachée va dire, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. C'est tout un changement connaissant le passé de Zachée. Se convertir à Jésus va entraîner des changements dans ta vie grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, c'est une transformation qui touche le cœur. À quoi le cœur de Zachée est attaché? À l'argent. Quel est le premier fruit de repentance chez Zachée? La générosité. Chez d'autres personnes, ça va peut-être être de la colère, ça va peut-être être plein de choses, l'immoralité. Lorsque le salut arrive chez toi, ça te transforme. Tu as un nouveau cœur transformé. Ça ne veut pas dire que tu vas être parfait. Ben non, c'est une progression. Mais regardez sa générosité. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quatre fois plus. Et c'était beaucoup plus que ce que l'Ancien Testament demandait. Alors, d'autres mots, je suis prêt à faire plus que ce qu'on me demande. C'est l'œuvre de Dieu dans sa vie, ça. Dans l'esprit du Moyen-Orient, chez les Juifs, l'idée d'inclure un Zachée, percepteur d'impôts, à la communauté de croyants, comme Jésus va le faire, l'appel de fils d'Abraham, c'est un scandale. Mais pour nous qui connaissons Jésus, nous savons que c'est l'expression la plus magnifique de la grâce et de l'amour de notre Sauveur. Qui est Jésus? Il est le Seigneur. Qu'a-t-il fait? Il est venu. Il s'est incarné pour venir nous chercher, sauver le pécheur. Et qu'est-ce que ça change? Bien, si nous plaçons notre foi en lui, il nous donne une nouvelle identité. Nous sommes une nouvelle personne, un cœur nouveau. Regardez comment Jésus appelle Zachée, sa nouvelle identité maintenant. Il l'appelle un fils d'Abraham. Pour nous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour Zachée, il comprenait très bien ce que ça voulait dire. Vois-tu, fils d'Abraham, c'est une façon juive de dire « tu es un enfant de Dieu maintenant ». C'est le point que l'apôtre Paul fait dans une de ses lettres. Il fait maintenant partie de la famille de Dieu. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle identité produit chez Zachée? Une vie changée. Produit de beaux fruits, de la générosité. J'inviterai les musiciens à venir maintenant. Jésus est venu chercher à sauver les pécheurs, puis les transformer totalement. Maintenant, la Bible est muette sur l'avenir de Zachée, mais l'histoire de l'Église ne l'est pas. L'évêque d'Alexandrie, Clément, dans ses écrits, qui existent encore aujourd'hui, qu'on peut lire, mentionne que Zachée a continué fidèlement à grandir dans le Seigneur. Il a suivi le Seigneur, il a servi le Seigneur jusqu'à la fin de ses jours, puis c'est même devenu un leader spirituel dans l'Église. Nous sommes tous dans le même état que Zachée. Nous avons besoin d'un prophète de Dieu qui vienne nous dire la vérité. On a besoin d'un prêtre de Dieu qui vienne nous donner accès à Dieu. Nous avons besoin d'un roi qui vienne nous guider, nous protéger, prendre soin de nous. Et nous avons besoin d'un bon berger qui vienne nous nourrir, nous guider. Et tous ces besoins nous renvoient à Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous purifie, nous libère du péché, nous donne la lumière, l'instruction, la vie éternelle. Jésus est notre prophète, notre prêtre, notre roi, et il est le bon berger. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur, on veut te remercier de tout cœur que tu as quitté le ciel, tu t'es incarné pour venir ici sur terre, pour venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu poursuis le pécheur. Nous te remercions, Seigneur. Tu nous connais personnellement comme tu connaissais Zachée, sans que personne ne te le présente. Tu connais chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te demandons aujourd'hui même, comme c'était le cas avec Zachée, que tu puisses venir dans la maison d'un pauvre pécheur et que tu puisses appeler ce pauvre pécheur et lui dire « Aujourd'hui, je veux rentrer dans ta vie. Aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. » Seigneur, il y a peut-être un Zachée ici ce matin, il y a peut-être un Zachée qui nous écoute même en ligne. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses toucher son cœur par la puissance de ton esprit. Et pour nous qui sommes tes enfants déjà, nous voulons te demander que tu puisses nous accorder cette grâce de marcher de manière à te glorifier, à t'honorer. À marcher étant conscient de tout ce que tu as fait pour nous. Que tu nous as poursuivis parce que tu voulais être avec nous pour l'éternité dans la gloire. Te demandons ces choses au nom précieux et glorieux de Jésus. Amen.